De quoi s'agit-il?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Enfin, qui êtes-vous?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute.
Merci.
Eh ben je vous écoute, parlez, allez.
Allez-vous me répondre, oui ou non?
Cinérama.
Vous en êtes sûr?
J'en suis certain.
Ah, un petit mot encore.
Cinérama.
Que faites-vous maintenant?
Actualité cinéma.
Ah bah voyez-vous ça.
Et tout le reste.
Je ne crains pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique.
C'est délicieux. Nous avons tous nos petits fantasmes.
Je sais que vous êtes très occupés, aussi nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Je serais ravi de vous croire.
Bonjour et bienvenue dans Cinérama, une interview, un blind test et une majorité de films qui sont dans les salles depuis le 9 octobre. Cela dit, toi tu en as vu un qui est en salle depuis le 2.
Oui, le blockbuster, on va dire, du moment, hein, Gemini Man de Ang Lee. Et puis je vous parlerai aussi d'un film sur l'autisme, Quelle folie, et puis d'un dessin animé pour les enfants, Jacob et les chiens qui parlent.
Alors Marine, avant de nous quitter temporairement, a eu le temps d'enregistrer une chronique où elle nous parle du dernier film de Christophe Honoré, Chambre 212. Un film qui va nous donner l'occasion de jouer avec la filmographie de Christophe Honoré. On écoutera 5 extraits et il faudra évidemment, vous, chers auditeurs, en deviner les titres. Et puis, l'interview de cette émission, c'est celle de Mounia Medour pour le film Papicha, un film plutôt attendu et qui est quand même largement diffusé dans les salles. Ainsi débute Cinérama avec Will Smith et son double.
Cinérama.
Henri, ça t'était déjà arrivé avant ?
Quoi donc ?
Que ton gouvernement cherche à t'éliminer.
Non, ça c'est nouveau.
Alors après les ambitieux L'Odyssée de Pi et puis Un jour dans la vie de Billy Lyne, fidèle à son éclectisme ou sa versatilité, Ang Lee nous revient avec un projet plus formaté, un pur film de studio produit par Jerry Bruckheimer, qu'il est inutile de présenter. Hein. Bruckheimer, c'est le producteur entre autres de Top Gun, Armageddon et puis de tous les Transformers. Alors Gemini Man débute sans grande originalité comme bon nombre de films d'action, développant un récit qu'on a quand même l'impression d'avoir vu une bonne centaine de fois. Alors Will Smith incarne Henry Brogan, un tueur professionnel qui, après avoir accompli environ 70 contrats sans défaillir, décide de prendre une retraite bien méritée. Mais il en sait trop sur sa dernière mission et il est soudainement pris pour cible et poursuivi par un mystérieux agent qui semble prédire chacun de ses mouvements. Alors en compagnie d'une jeune agent censée au départ le surveiller, il va tenter de percer ce mystère et découvrir ainsi qu'il a été cloné. Évidemment, son double est plus vif, plus jeune et plus agile.
Il connaissait le moindre de mes mouvements à l'avance. Qui sait ?
Je sais pourquoi il est aussi fort que toi. C'est toi. Gemini se prend pour Dieu en jouant avec l'ADN.
Mais comment c'est possible ?
Qui t'a cloné quelqu'un ? Il aurait pu cloner Nelson Mandela.
Nelson Mandela réussirait pas à tuer un homme à 2 km dans un train en marche.
Imagine que quelqu'un découvre ce qu'on est vraiment, toi et moi.
Alors si la première heure, hein, elle n'offre aucune originalité, elle démontre néanmoins une fois de plus la capacité d'Ang Lee de se fondre dans le système hollywoodien avec une habileté de vieux routier. Alors les scènes d'action sont impressionnantes, réalisées avec un vrai sens de l'espace et du rythme, découpées à la perfection, alors en dépit d'une photographie numérique plutôt moche. Ce divertissement trépidant nous balade aux quatre coins du monde et l'on sent une réelle jubilation de la part de l'auteur de Tigre et Dragon lorsqu'il filme face à face entre les deux Will Smith. Alors séparés par un fossé générationnel toutefois d'une trentaine d'années. Hélas, Ang Lee, qui est plutôt un cinéaste sérieux, besogneux même, ne va pas en rester là et s'embourbe dans une deuxième partie pesante et explicative sur fond de réflexions poussives sur le clonage, le temps qui passe, la paternité. Il tente aussi de livrer en creux un état des lieux du cinéma américain avec une métaphore sur l'évolution du cinéma d'action, passant de l'esprit, on va dire, un peu vintage des années 80-90 au virage entièrement numérique des productions hollywoodiennes contemporaines. C'est-à-dire qu'en fait, le Will Smith qui a 50 ans représenterait le
cinéma passé,
le cinéma du passé, et le nouveau Will Smith totalement lisse représenterait le cinéma présent. Bon, c'est un peu schématique quand même. Hein. Alors oubliant en route sa légèreté de départ, son côté old school, Gemini Man devient un pénible film méta, doublé d'un pensum psychologique alourdi par des dialogues shakespeariens ridicules, rappelant d'ailleurs l'un de ses plus mauvais films à Ang Lee, qui était Hulk, où il y avait comme ça entre Hulk et puis son créateur, son géniteur, qui était interprété par Nick Nolte. Des dialogues comme ça qui semblaient sortir d'une pièce de théâtre un peu ampoulée. Et là, le film s'écroule quand même sur sa dernière partie, malgré la présence de Will Smith qui est plutôt bon, et puis de Clive Owen, qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment.
C'est vrai. Et puis un peu d'humour quand même, on l'a entendu dans la bande-annonce.
Oui, c'est très léger. Oui. En fait, la bande-annonce, elle est assez trompeuse. Hein. Le film est très très sérieux, en fait. Non, mais c'est vrai. Hein.
Mais tu fais bien de le dire. Voilà, allez, c'est l'interview de cette émission. C'est Mounia Medour, la réalisatrice de Papicha.
This is Cinérama.
Et ça, c'est clair.
Présenté à la compétition Un certain regard à Cannes, Papicha de Mounia Medour a fait partie du quota de films réalisés par une femme, une qualité particulièrement recherchée cette année par le festival. Mais il avait aussi une autre qualité, c'est qu'il prend pour sujet des femmes, et plus exactement l'une d'entre elles, Nejma. Elle a 18 ans et elle vit à Alger dans les années 90, dans une résidence universitaire où évidemment il n'y a que des femmes. Alors son rêve, c'est de devenir styliste, sans forcément quitter le pays, mais juste continuer à vivre sa vie, comme les Papichas qu'elle habille. Alors les Papichas, ce sont des jeunes femmes drôles, jolies, libérées et épanouies. Hein, c'est comme ça qu'on les qualifiait à Alger. Alors seulement, les années 90 en Algérie marquent une période sombre du pays avec l'arrivée des islamistes, s'ensuit les intimidations, les violences et ensuite les meurtres. C'est ce qui est à voir dans Papicha, comment petit à petit l'intégrisme, la peur et la violence va s'installer en dehors de la résidence universitaire et comment des jeunes femmes vont tenter de résister. Pour raconter cette période, Mounia Medour a décidé de prendre le point de vue d'une femme, qui pourrait être elle, et de nous placer au plus près des corps. Être styliste, c'est évidemment s'opposer à l'uniformité du voile. Alors, peu de personnages masculins à voir dans ce drame, quasi exclusivement donc féminin, qui avance sans manichéisme. La richesse des personnages secondaires est l'un de ses attraits, parce que c'est un groupe de filles quand même. Il y a un personnage principal, mais elle a des copines qui ont toutes des traits particuliers. La force du personnage principal, c'est d'être dur, tenace et en même temps fragile. Alors, les faiblesses du film résident dans sa narration et les ressorts dramatiques qui sont un peu trop attendus. Mais d'une certaine manière, ces faiblesses sont dépassées par le sujet même du film qui est fort, c'est la résistance contre l'enfermement et la liberté. Et Mounia Medour, avec une clarté assez inhabituelle chez les réalisateurs, va nous expliquer de quoi retourne Papicha, son film.
استروا رواحكم شويه برك خلونا من لي بروبليم
نديروا حجاب نقعدوا في الدار سي صح
tu veux prendre une balle c'est ça
حفله خلاص ديال بابيجا.
Au début du film, il y a un carton qui indique que c'est un film qui est inspiré librement de faits réels. J'ai donc moi-même vécu dans les années 90 en Algérie, dans une cité universitaire similaire à celle qui est décrite dans le film. Et donc j'ai vécu cette période, on va dire, de montée aussi du radicalisme. Et j'avais donc envie de transmettre cette histoire, de raconter de l'intérieur de cette cité universitaire ce qui se passait au sein de ce milieu féminin qui est un peu représentatif de la micro-société algérienne, puisque vous avez de l'entraide, vous avez de l'amitié, mais vous avez aussi beaucoup de soucis. Et l'extérieur de cette cité universitaire qui est le symbole de la montée de cette période noire qu'a connue l'Algérie avec ses victimes. Il faut savoir que c'est quand même 150 000 morts, la guerre civile en Algérie. Et j'avais envie, donc, à travers ce vécu, de transmettre cette page de l'histoire algérienne d'un point de vue très particulier, puisque je ne fais pas un cours d'histoire sur cette période de là, mais j'emprunte le point de vue d'une jeune adolescente, d'une jeune femme qui va vouloir organiser son premier défilé de mode dans une Algérie en proie à une guerre civile. Donc voilà, c'est parti d'abord d'un sentiment très personnel, d'une envie de transmettre cette histoire. Et par la suite, il y a cet hommage, cette envie de rendre hommage à toutes les femmes aussi, résistantes algériennes, qui continuent aujourd'hui encore dans la rue pour un changement, pour une émancipation et pour reconquérir l'espace public.
Nous allons parler du texte « Individu et société ». Dans ce texte, Albert Jacquard explique que son objectif n'est pas de construire la société de demain, mais de montrer qu'elle ne doit pas ressembler à celle d'aujourd'hui.
Je pense que Papichat est un film universel. Ce que moi, j'avais envie à travers ce film, c'est dresser le portrait de jeune femme qui se bat pour son émancipation. Cette émancipation, elle peut être partout dans le monde, puisque là, on a fait quelques avant-premières. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens s'identifient beaucoup en France à tel ou tel autre personnage dans le film. Chacune a un combat à mener pour une émancipation, pour atteindre un rêve, un but. Donc l'idée, si vous voulez, à la base, elle était plutôt de raconter de façon universelle cette histoire-là. Mais c'est une histoire, effectivement, qui continue aujourd'hui et en corrélation avec ce qui se passe, avec cette révolution, effectivement, que connaît l'Algérie actuellement depuis le 22 février. Et c'est vrai que ce film a un écho formidable, même si on l'a tourné il y a plus d'un an et demi. On l'a fini vraiment au moment où la jeunesse algérienne a décidé de dire non à l'état actuel des choses et un moment où cette jeunesse a décidé de prendre en main son destin pour beaucoup plus d'ouverture et d'espoir et de liberté.
C'est ça ? Bnet, un défilé. Vous allez défiler pour moi ?
La mode est là pour un but très, très particulier, puisque on a ce monde extérieur qui est représentatif de la violence, de l'aspect, on va dire, non progressiste des choses, avec cette propagande pro-voile. Et en contradiction, on a cette jeune femme qui, tout simplement, avec une étoffe, va essayer d'embellir le corps des femmes, le dévêtir un tout petit peu. Mais oui, la mode était un élément fédérateur important pour toutes ces jeunes femmes de la cité, puisque c'est quelque chose d'assez simple qui peut paraître très futile mais qui à l'époque était problématique, puisque si on revient au mot papicha, c'est tout simplement jeune fille plutôt émancipée qui s'habille de façon, on va dire, assez moderne et du coup la mode, c'est vrai, est un élément finalement d'émancipation et de résistance quelque part.
Je répète, et que vivre, ce n'est pas lutter contre les autres.
Scott,
وش بكم؟
لعن الله قوما يتحدثون بأجنبية.
وش بكم؟
Il y a eu un énorme travail sur la mise en scène, puisque je voulais absolument retranscrire la pulsion de vie. C'est-à-dire que ce qu'on fait avec cette caméra très proche, on essaie d'être en immersion avec ces jeunes femmes. On essaie d'épouser chaque moment de leur vie. On essaie d'être au plus près des corps, des tissus, et de ressentir finalement cette pulsion de vie. Parce que, en fait, lorsqu'on vit dans une société qui est en pleine guerre civile, tout est incertain. Et donc, les gens vivent le jour au jour, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Et donc ce tournage de façon très dynamique, très organique, très proche des corps, avec ce montage qui est très abrupt, parce que si vous analysez aussi les séquences, elles sont presque toutes coupées avant la fin de l'action. C'est encore une fois pour créer cette espèce de sentiment d'urgence. Et puis après, vous avez un pivot, pour moi, avec la sœur. Et là, on s'installe dans un autre rythme qui est beaucoup plus lent, qui est beaucoup plus dans l'acceptation du deuil. Et là, on a une caméra qui est un peu moins nerveuse, on va dire. Moins fiévreuse aussi, puisqu'au départ, on est vraiment avec ces jeunes femmes dans l'effervescence de la fête et de la joie, quoi.
C'était Mounia Medour, la réalisatrice de Papicha, en salle depuis le 9 octobre, tout comme Quelle folie, on est avec un autiste.
Comment faites-vous pour choisir un film ?
Cinérama.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Précisez.
J'ai pris conscience qu'il y avait quelque chose de bizarroïde chez moi, et à 11 ou 12 ans, en jouant avec des amis, tout savait raconter quelque chose. Moi, j'étais prostré dans une zone qui s'appelle l'autisme.
Alors comme ça, c'est pas vraiment l'autisme que l'on a l'habitude d'entendre au cinéma, enfin de voir plutôt. Hein. Donc la question, c'est comment filmer l'autisme au cinéma ? La fiction a souvent abordé le sujet en présentant des autistes profonds, incapables de communiquer avec leur environnement afin de sensibiliser, on va dire, le public au problème de ce handicap. Alors parmi les grandes réussites, hein, on peut citer évidemment Miracle en Alabama d'Arthur Penn, hein, qui évoquait la vie de Helen Keller. Et puis dans une moindre mesure, le très consensuel et très connu Rain Man. Alors plus récemment, Le Monde de Nathan ou encore Corps et âme s'intéressaient à cette pathologie. Alors curieusement, peu de documentaires existent hors d'un cadre institutionnel. Pour une raison évidente, hein, il est très difficile de filmer un autiste, surtout si l'on a envie qu'il soit partie prenante, active dans l'élaboration créative de l'œuvre, acteur du sujet, et pas uniquement un figurant soigné par une équipe médico-sociale. L'intérêt est de leur donner la parole, mais comment faire ? Peut-être déjà en offrant un espace à un autiste pouvant communiquer face caméra avec toute la difficulté que cela sous-entend. Alors Aurélien Deschamps est un autiste particulier puisqu'il est atteint du syndrome d'Asperger, qui, rappelons-le, est une forme d'autisme souffrant d'aucun retard de langage et qui se caractérise par des difficultés de compréhension dans les rapports sociaux et une tendance à la répétition du comportement. Alors rien n'est évident pour lui, rien ne semble logique, il ne possède juste aucun code social. Quelle folie tente de reconstituer de façon cohérente son espace mental en canalisant son expérience, en recueillant ses réflexions souvent désordonnées. Le projet, alors beaucoup plus complexe, surtout sur un plan de la réalisation, hein, qui pourrait paraître comme ça à l'écran, du réalisateur Diego Giovenatori, a nécessité 2 ans de tournage et sans doute un montage vraiment difficile, évacuant au moins 99% de tout ce qui passait par la tête de son personnage central. Alors Giovenatori filme le livre, d'une certaine manière, puisqu'il le dit à un moment, Aurélien Deschamps, donc il filme le livre qu'Aurélien ne pourrait jamais écrire, tente de raccommoder en fait une pensée éclatée, dispersée, parfois noyée sous un flux de mots ininterrompus. Aurélien Deschamps vampirise l'écran de sa présence intense et habitée, même lorsqu'il est isolé en pleine nature, dans les hauteurs de Pamplelune.
Je me suis à moitié pété un pied,
ça m'a laminé tout le côté du pied, j'ai hyper mal ici à l'intérieur, quoi.
Quand même, j'ai failli me tuer, quoi. J'ai failli me transpercer le pied, les gars.
La condition autistique, c'est pas comprendre que la douleur, elle est dans le pied et qu'elle va pas nous anéantir, qu'elle va pas nous submerger. Hey, y'a pas,
y'a bébé. La folie est chose rare chez les individus. Mais dans les groupes, les partis, les peuples ou les époques, c'est la règle.
Alors ces réflexions l'amènent à évoquer avec une excitation peu commune et un débit de parole ininterrompu sa déficience alors concernant la compréhension du monde et notamment en ce qui concerne le symbolisme des objets qui nous entourent. Alors un objet n'a pas de sens pour un autiste, une œuvre d'art par exemple n'existe pas, les autistes n'ont pas accès à ce qui nous va de soi. Hein. Enfin, le réalisateur, caméra à l'épaule, tente de nous faire partager donc, le psychisme décalé d'Aurélien. Il laisse parfois le spectateur respirer alors en passant par des sensations sonores, à commencer par l'utilisation pertinente d'une musique contemporaine, alors plutôt dissonante, hein, où l'on entend aussi bien Luc Ferrari que Christophe Penderecki. Alors les extraits choisis expriment bien l'esprit tourmenté du sujet observé. Pour ne pas lasser le spectateur ou même l'agacer, hein, le réalisateur s'autorise des pauses silencieuses, des moments de respiration. Il injecte aussi du cinéma et, paradoxe, du symbolisme à travers la figure du taureau. Par un effet miroir saisissant, il montre à travers les images d'une feria de Saint-Firmin le comportement un peu excessif des hommes. Les taureaux poursuivis par une masse informe d'individus du surexcité et alcoolisé aussi, sont un peu les victimes d'un système agressif où la question de la norme se pose. Sans donner une image romantique de l'autisme, Diego Giovenatori a livré un beau témoignage d'un homme coupé de ses semblables, où rien n'est accessible, où l'environnement reste constamment étranger à soi. Alors, fruit d'une amitié de plus de 10 ans, ce documentaire qui s'apparente, on va dire, à une auto-analyse un peu restructurée, réorganisée par la bienveillance d'un tiers, ne cherche nullement à être objectif. Elle est empreinte d'une empathie permanente, mais il n'évacue pas la dimension critique et évite aussi les pièges du cinéma, on va dire, institutionnel et didactique. En revanche, on sort un peu éreinté de ce film par ce débit de parole, par cette, cette présence un peu furieuse le personnage quand même assez étonnant de ce Aurélien Deschamps.
Quelle folie est en salle depuis le 9 octobre, tout comme Chambre 212. C'est le dernier film de Christophe Honoré. Ça va nous donner l'occasion de jouer à un blind test. Mais avant cela, on va écouter Marine qui a vu le film.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Non, j'ai été plutôt déçu. Alors c'était sûrement une comédie.
Depuis quand, dis-moi, ta sexualité est devenue une activité extra-conjugale ?
C'est la loi des couples qui dure. Personne n'y échappe.
Sauf que moi, je t'ai jamais trompé en 25 ans.
Richard !
Pour réfléchir à son couple, Maria, interprétée par Chiara Mastroianni, décide de passer une nuit dans l'hôtel juste en face de son appartement parisien, dans la chambre 212, histoire de retrouver une chambre à soi. Il faut dire qu'elle vient d'avouer à son mari, interprété quant à lui par Benjamin Biolay, qu'elle avait depuis toujours de très nombreux amants et il semble envisager l'infidélité avec beaucoup moins de légèreté qu'elle.
C'est qui ?
Richard vous a jamais parlé de sa professeure de piano ? Et si vous décidiez de me rendre celui que vous m'avez pris ?
Richard ! Richard, on repart, Richard ! Désormais,
mon cœur vivra sous l'air. Alors, petit résumé de votre situation. Vous venez de pousser dans les bras de votre vieux mari son amour de jeunesse, et vous, vous en profitez pour coucher avec ce même mari, mais à l'âge qu'il avait lorsque vous l'avez rencontré.
Parce que je m'autorise une fois un écart.
Maria, nous avons la liste de tous vos écarts.
Comment ça, vous avez la liste ?
Alors, qui est qui, déjà ? Pierre, le cousin.
Mais qui couche encore avec ses cousins après 14 ans ?
Bah, tout le monde, hein.
Dans la chambre 212, ça évoque rien pour toi ? Article 212 du Code civil. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Et madame est professeure en fac de droit. Jamais plus ne connaîtront la même peur de voir s'enfuir
notre bonheur. Et du reste, désormais. Est-ce que tu sais ce que tu veux vraiment ?
Christophe Honoré renoue dans Chambre 212 avec un cinéma décomplexé et très libre, donc forcément enthousiasmant. Si la comédie française a toujours aimé rire de l'infidélité, le cinéaste n'oublie pas ici de laisser une grande place à l'émotion et à l'exploration des sentiments aussi. Et puis le point de vue du cinéaste sur le couple est ouvertement moderne. Maria est de ces rôles féminins qui renversent les codes avec insolence et interrogent les stéréotypes. Elle profite de son statut de prof de droit pour coucher avec ses élèves. Elle se retourne sans complexe dans la rue sur les beaux garçons et voit les liaisons comme une façon de faire durer son couple. Alors, les débuts du film agacent un peu, le rythme des dialogues effrénés, ce ton volontairement assez faux, suranné, nous font redouter un marivaudage version 16e arrondissement, mais Chiara Mastroianni déjoue par la sincérité de son interprétation ce qui aurait pu faire du film une bluette, un télo et bavarde. Celle qui fut un temps mariée avec Benjamin Biolay est ici sa partenaire de jeu. Ils interprètent un couple à la lisière de la fin qui s'interroge sur l'érosion du désir, sur la fidélité, le sens de l'amour. Autant de thématiques chères à Christophe Honoré qui a toujours adoré sonder les couples depuis Dans Paris ou encore Les chansons d'amour. Et tant qu'à faire, eh bien autant replonger dans les affres de la rupture deux comédiens qui se sont aimés dans la vraie vie. Une mise en abîme un peu perverse, certes, mais bon, si les réalisateurs étaient des créatures saines d'esprit, ça saurait, et qui porte ses fruits. Tour à tour, le duo émeut, amuse, réjouit. Autour d'eux, un Vincent Lacoste toujours aussi désabusé, hein, qui participe à rendre le film très drôle, quoique avec un jeu assez monolithique tout de même. Et Camille Cotin, qui étrangement fusionne parfaitement avec le cinéma de Christophe Honoré et offre même les plus belles scènes du film. Après le trop sérieux aimer, plaire et courir vite, Chambre 212 témoigne de l'inspiration toujours vive de Christophe Honoré. C'est également sa 6e collaboration avec Chiara Mastroianni et on ne se lasse décidément pas de le voir retomber en amour film après film avec sa comédienne fétiche qui est d'ailleurs repartie du dernier festival de Cannes avec un prix d'interprétation mérité dans la catégorie Un certain regard.
Chambre 212, c'est donc le dernier film de Christophe Honoré. Mais maintenant, eh bien, on va jouer au blind test. 5 extraits de la filmographie de Christophe Honoré. C'est 16 films. Alors, il a fait des opéras, il a fait des pièces de théâtre, il a aussi fait des romans. Et puis aussi une 20aine de romans jeunesse. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui est assez prolifique. Allez, premier extrait.
Petit salaud, ton jeu est clair. Tu veux tout sans aucune. Le beurre, le cul de la crémière. Deux pour le prix d'une.
Petite garce, que tu es vulgaire. Que c'est laid dans ta bouche. Que cette jalousie m'indiffère. Vois comme tu te couches.
Je suis le pont sur la rivière. Qui va de toi à toi. Traversez-moi la belle affaire. Embrassez-vous sur moi.
C'est la tradition du blind test, il faut que ce soit facile au début, c'est...
Les chansons d'amour.
Oui. Film de 2007 avec Louis Garrel, Ludivine Sagnier, Clotilde M, deuxième extrait.
T'as un respect pour moi que je mérite pas. Tu crois que je passais toutes mes après-midi depuis ces années, hein? Pourquoi tu crois qu'on t'a fait élever par ta grand-mère? Qu'est-ce que tu t'es imaginé? Regarde-moi, Pierre. Je suis une salope. Une chienne. Personne ne me respecte. Ton père le savait, lui. Ton père était d'accord. Si tu m'aimes vraiment, tu dois admettre que je suis répugnante. Et je veux que tu m'aimes pour ça. Pour la honte que je t'inspire.
Et ça se passe, oui.
Ma mère ?
Oh oui, sur le fil, parce que tu ne trouvais
d'après
pas.
D'après Bataille, oui, j'ai reconnu au dernier moment. Ouais.
Isabelle Huppert et Louis Garrel, avec aussi Emma de Caunes, film de 2004.
C'est bien. Un peu livre d'image pour moi. Pas la peine de rester alors. Vous devriez vous en aller. Bah, j'hésitais à le faire avant que vous entriez. C'est moi qui vous fais rester. Ouais. La vie est plus étonnante que les films. Surtout que ce film-là. Vous dites ce genre de choses à des inconnus, quoi. J'ai parlé trop vite. La vie est plus conne que les films, c'est tout. Et vous avez raison, les films hésitent toujours devant la connerie de leur récit. Ils sont torts.
Voilà, un petit...
Plaire, aimer, courir, je sais plus dans l'ordre. Voilà.
Alors, plaire, aimer et courir vite.
Voilà, et courir vite, ouais.
C'est l'avant-dernier film en 2018 avec Vincent Lacoste et Pierre Deladonchamp que l'on écoutait. Ils étaient au cinéma, c'est pour ça qu'ils parlaient tout bas et qu'ils commentaient le film.
Attends un peu qu'on se déteste. Ils viendront bien les coups de schlag. Avant de nous passer à l'est, de nous refaire le coup de Prague, de nous refaire le coup de Prague.
Alors, bon, là, Léa Seydoux, Louis Garrel et Grégoire Le Prince Ringuet.
Non, je ne sais pas.
C'est La Belle Personne, film de 2008. Voilà, encore un film comédie musicale. Allez, dernier extrait.
En fait, le chaboter à fond à 6h du matin, je suis pas sûre que ce soit très bon pour ma grossesse.
Augustine voulait plus dormir.
C'est pas à elle de décider quand toute la maison doit se lever. Maman était déjà debout à refaire ses valises.
Tes enfants te tyrannisent, tu t'en aperçois même pas.
Je suis débile, forcément. Les mères, c'est connasses au cerveau en fromage blanc. Excepté toi, bien sûr, tellement parfaite.
Ça va, je te reproche rien, je te dis juste que tes enfants profitent de toi.
Tu t'es jamais demandé ce que voulait dire cette phrase ? Ils profitent de toi ? C'est ton idée tellement machiste de l'endurcissement par assèchement du cœur.
Machiste, moi ? T'es devenue dingue. Vraiment.
Alors on entend Chiara Mastroianni et Marina Foïs.
Et c'est « Non, ma fille, tu n'iras pas danser ».
Voilà, film de 2009. Ainsi s'achève ce blind test spécial Christophe Honoré. Maintenant, on passe bien à un film pour enfants.
Avec vous, c'est du travail soigné.
Cinérama.
Et ça, c'est clair.
Jacob, t'as une minute à m'accorder.
Hein ?
T'as jamais vu de chien qui parle ? À Maskachka, rien ne se décide sans notre accord. C'est nous qui contrôlons le quartier.
Alors quand son père doit s'absenter pour son travail, Jacob est à son grand regret obligé de passer une semaine chez son oncle à Maskachka, un quartier populaire presque rural. Le séjour tant redouté va prendre une tournure inattendue quand, avec l'aide de drôles de chiens qui parlent, Jacob et Mimi vont tenter de sauver le vieux quartier d'un colossal et destructeur projet immobilier. Alors les dessins animés des pays de l'Est nous ont habitués à plus inventifs et racés, mais ce Jacob et les chiens qui parlent bénéficient néanmoins d'un scénario astucieux et de personnages attachants. Alors le manque de moyens se ressent, notamment en ce qui concerne l'animation assez rudimentaire, mais la générosité du propos et les bons sentiments devraient satisfaire les plus jeunes à condition de ne pas être sevrés uniquement par les productions Disney. Car sur ce plan, un monde sépare cette coproduction polonaise et lettonienne. Et l'esthétique formatée des contes de fées passés à la moulinette des studios créés par l'oncle Walt à l'origine. Alors attentif au discours pédagogique, Jacob et les chiens qui parlent s'avèrent une fable écologique sincère, n'oubliant pas la part de fantastique à travers les pouvoirs de Jacob, capable de changer le cours des choses en dessinant ce qui lui passe par la tête. Alors la technique d'animation traditionnelle en papier découpé, image par image, apporte une touche de poésie fragile à ce petit film qui se présente comme une critique du système capitaliste qui n'hésite pas à détruire la nature pour servir les intérêts à d'ambitieux promoteurs. Bon, on a vu pire comme message, les parents devraient être plutôt satisfaits. Enfin, peut-être pas tous, je dis ça. Alors, passé 10 ans, néanmoins, ce dessin animé risque de paraître un peu désuet et naïf, mais pour les plus jeunes, ce long métrage élégant, entre leçons de civisme et fantaisie enfantine, offre une alternative agréable, un genre souvent marqué par une agressivité esthétique. Le film a un côté, très reposant. mais il ne risque pas de plaire au-delà d'un certain âge. Hein. C'est quand même vraiment pour les tout-petits. Et voilà.
Oui, les tout-petits ou ceux qui sont bientôt en vacances ou déjà en vacances. Ou voilà.
Et puis, c'est quand même bien de voir aussi des visuels, des esthétiques qui soient un petit peu différentes de ce qu'on nous propose. Mmh. Il y a une belle recherche au niveau des décors, d'ailleurs.
Vous avez fini ?
Eh bien, oui, je crois que oui. Oh,
c'est pas possible.
Ah, si, je vous assure.
Vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Foutez-moi le camp !
Alors, la semaine prochaine, tu as déjà vu bien deux films.
Martin Eden, d'après Jack London, et puis Bleu Palebourg.
Et puis Marine qui sera de retour dans l'équipe, dans les studios, vous parlera de Mathias et Maxime et de Fahim.